L'Express du 20 mars sans Martin. Martin n'est pas là. Martin est en train de travailler super fort à vous construire je pense qu'il ne faut pas que je le dise. Je pense qu'il va me faire chicaner si je le dis. Mais il est en train de faire de quoi de vraiment hot pour vous autres. Puis ça prend, je pense qu'on veut facilement des plusieurs dizaines d'heures. Quand on passe devant sa chambre, on entend des bruits de clavier puis de souris qui cliquent furieusement. Fait qu'on ne le dérangera pas trop. Puis je vais me charger de l'Express cette semaine tout seul comme un grand. On va essayer de vous parler de l'actualité pendant une heure à chaque jour. Puis je pense que ça va être correct pareil. Je pense qu'on devrait être correct. Je vais essayer de lire vos commentaires. C'est sûr que quand on est seul, on a moins de temps pour faire. Puis si personne remplit, mais je vais essayer, gênez-vous pas pour commenter, je vais essayer d'interagir avec vous autres comme à l'habitude. Puis on va commencer avec une petite nouvelle quand même assez soft, Moi, je trouve ça un peu cocasse, mais pour vrai, c'est pas vraiment drôle. Avec le cafouillage qu'on a vu des passeports dans la dernière année, là, les délais épouvantables, tu sais, t'avais des citoyens du Québec qui allaient au Nouveau-Brunswick chercher leur passeport parce que c'était juste ben trop long. Ben là, il paraît que ça s'est résorbé, puis il fonctionne en maudit. Il fonctionne tellement que... OK, c'est un peu démagogue, là, mais je veux dire, il envoie ça n'importe où. Il envoie pas ça n'importe où, mais il y a une famille de la grande région de Québec, dans le coin de Portneuf, si j'ai bien compris. Ils ont reçu des passeports et des documents confidentiels de 5 autres personnes, notamment de d'autres provinces. Tu sais, le passeport, c'est pas juste une carte d'assurance sociale. Puis même une carte d'assurance sociale, tu sais, on peut s'en servir pour voler l'identité de quelqu'un, accéder à des services. Imaginez un passeport, mais pas juste le passeport, aussi les documents que ça prend. Puis je viens de faire les démarches, hein. Moi, ça fait pas longtemps que j'ai fait les démarches pour avoir un passeport. Ça prend le certificat de naissance, ça prend un paquet d'informations, tu sais, avec des pièces d'identité, avec ta photo dessus. Il te demande quasiment ton ADN puis tes empreintes digitales. C'est beaucoup, beaucoup d'informations. C'est la totalité de ton identité dans ce petit livret-là, d'ailleurs, qui est orné des magnifiques armoiries du Canada que j'avais jamais remarqué. Il y a une licorne là-dessus, un lion puis une licorne. Ben, Colin. Je pense que l'Écosse aussi a ça, une licorne. Mais bon, j'ai reçu mon petit livret, puis pour vrai, dans des délais raisonnables, même un petit peu plus vite que ce qu'on m'avait promis. Mais je n'ai reçu un, le mien. C'est pas le cas de cette famille-là qui en a reçu pas mal. Puis faut le dire, là, le père de famille qui a reçu toutes ces affaires-là a agi de façon irréprochable. Citoyen modèle. Il avait fait une demande de passeport pour ses enfants, puis là, il manquait une information, c'est toujours le cas. Des fois, la photo ne fit pas, même s'il donne un gabarit. Tu vas à la pharmacie où ils ont un gabarit pour les passeports, ils rentrent dans le gabarit, prennent la photo, tu arrives à Service Canada, puis non, c'est pas correct, tu y retournes. Lui, il manquait une information. On dit pas laquelle, mais on lui a renvoyé ses documents avec sa demande au début de février pour qu'il puisse la compléter et la renvoyer. Mais en plus de ses documents et ceux de ses enfants, parce qu'il faisait ça pour ses enfants aussi, il y avait les documents personnels d'une madame de la Colombie-Britannique. Puis quand je vous dis que il a agi comme un citoyen modèle, il a renvoyé les documents par la poste à Passeport Canada. Il a même payé pour être capable de tracer le colis pour être certain que ça se rende à Passeport Canada. Tu sais, Passeport Canada devrait s'inspirer de cette personne-là. Puis il a pris la peine aussi de porter plainte à l'organisme fédéral, Passeport Canada, par Internet. Plainte sur Internet, ça vaut ce que ça vaut. Puis là, lui, il dit, bon, j'ai fait mon devoir de citoyen à la perfection. C'est une erreur de Passeport Canada. Ça peut arriver. Je leur ai renvoyé. Mais là, 2 semaines plus tard, il reçoit 4 enveloppes avec les papiers, puis les papiers d'identité, les passeports de gens qui provenaient de l'Ontario, de Winnipeg, d'Edmonton, Stansted, en Estrie. T'sais, 4! T'sais, on rit, mais c'est pas drôle, parce que si ça avait été entre les mains de quelqu'un de moins modèle, Colin, ça se vend, il paraît, hein, ces affaires-là. Puis ça vaut une fortune. Puis tu sais, c'est... Quelqu'un qui veut se forger une identité, un kit de passeport, tu sais, il y a tout, tu sais, t'as pas besoin de travailler fort après ça, là, t'as pas besoin de te forger d'autres choses, t'as toutes les pièces entre les mains, fait que Pour vrai, c'est assez grave, là, même si j'en ris. Je ris du cafouillage, je ris pas des conséquences possibles. Mais il n'y a pas eu de conséquences, parce que, encore là, il a très bien agi. Mais dans les demandes dans les quatre enveloppes qu'il a reçues, c'était surtout des demandes de renouvellement refusées, mais c'était des demandes de passeport, c'est-à-dire que il y avait encore là les certificats de naissance, le permis de conduire, ben t'as pas le permis de conduire, mais des pièces d'identité, photos, t'sais, le kit complet du parfait pirate qui veut se forger une identité. Puis là, ben c'est parce que ça fait beaucoup là, t'sais, une erreur, ok, mais là deux erreurs à la même adresse. Ça laisse croire que ces erreurs-là sont peut-être pas si anecdotiques que ça. T'sais, lui, il en parle. Puis, tu sais, la première fois qu'il a reçu des documents, il les a juste renvoyés. Il n'a pas parlé à des journalistes. Mais là, c'est parce que ça fait deux fois. Fait que je me demande combien de fois ça a pu arriver ou que ça arrive encore. C'est ordinaire. Puis, d'ailleurs, tu sais, la première épisode, il a fait une plainte sur Internet, puis il n'y a eu aucun retour là-dessus. Puis il avait envoyé les colis à Passeport Canada en payant pour pouvoir tracer. Il avait tout bien fait ça. Mais là, il s'est dit, bon, finalement, j'ai pas confiance, puis j'ai pas eu de retour de ma plainte. Il les a rapportés à son député, carrément. Il a dit, tiens, j'ai pas confiance à Passeport Canada. Je leur envoie ça, puis je me demande s'ils vont pas me le renvoyer dans une boîte avec des chocolats. Je reçois des demandes de passeport à coup de 4-5. Il dit qu'il n'a plus aucune confiance dans la machine administrative de Passeport Canada. Je sais pas si cette espèce d'engorgement-là chez Passeport Canada, ça touchait juste les citoyens du Québec, mais je pense pas, puisque c'est fédéral. Fait que, est-ce qu'on s'est mis à botcher parce qu'on s'est dit, ah, là, on n'arrive pas, puis on fournit pas, faites ça, on s'est peut-être drôle dépêché. Je me souviens qu'à l'époque, on avait engagé beaucoup de renforts pour venir à bout de ce problème-là. Eh bien, peut-être qu'on a engagé des gens qui étaient pas si qualifiés que ça. Je dis ça de même, là. C'est pas écrit nulle part. C'est juste une déduction que je fais. Je me rappelle plus du nombre de fonctionnaires supplémentaires qu'on avait engagés. Est-ce que c'était des fonctionnaires qui étaient habitués à travailler dans l'appareil gouvernemental ou c'est juste on a engagé du monde pour travailler dans les bureaux? Mais en tout cas, apparemment, c'est peut-être pas la crème. On s'est peut-être un peu trop dépêché. Fait que, ben c'est ça, il a envoyé ça, il l'a amené en main propre à son député, qui est Joël Godin, dans Portneuf-Jacques-Cartier, un conservateur, si je me rappelle bien, député fédéral. Je pourrais me tromper. Puis le député, il a dit qu'il rapporterait les enveloppes en main propre au bureau de Passeport Canada à Gatineau, t'sais, pas loin du Parlement. Fait que, ben écoute, c'est le député lui-même qui les a rapportées. Fait que c'est un peu ordinaire. Puis le pire, c'est que ces gens-là étaient pas informés là qu'il y avait eu que leur dossier personnel, que leur document privé et personnel avait été distribué comme ça, un peu dans le vent, pour atterrir chez ce monsieur-là de Portneuf, Jacques-Cartier. C'est le Journal de Montréal qui les a contactés pour leur apprendre ça. Puis il était tellement surpris et pas au courant qu'il pensait que c'était une fraude téléphonique. Ça devait ressembler à ça. Ah, on a un problème avec vos documents, puis votre passeport, puis nanana, puis votre identité pourrait être en danger. Votre identité était numérique, pas numérique, mais en tout cas, votre identité sur papier. Fait que la plupart ont pas cru le journaliste quand il leur parlait. Peut-être qu'il y avait un accent aussi. Mais ils pensaient que c'était une fraude téléphonique. T'sais, on s'imagine pas que ça peut arriver. Ben, Colin, c'est arrivé. Puis ils ont pas aimé ça, apprendre cette nouvelle-là. Ma vie privée a été violée. Je n'ai reçu aucun avis du gouvernement. De ce genre, ça, je lirai pas tous les commentaires. Mais ça va dans ce sens-là. Du côté du député, ben sa réaction, évidemment, il a dénoncé un manque de rigueur. Je pense que c'est le moins qu'on puisse faire chez Passeport Canada. Il dit un gros problème de processus. Oui, selon lui, fait pas de doute que c'est la pointe de l'iceberg. Donc, ben moi aussi, je pense ça. C'est arrivé quatre fois, c'est arrivé deux fois, deux épisodes, mais un total, je pense, de cinq enveloppes là, avec des documents de cinq personnes différentes. Tous à la même mauvaise adresse. J'ai de la misère à m'imaginer que c'est arrivé juste une fois. Tu sais, j'ai l'impression qu'il va y avoir une suite et que je vais reparler de ça et vous parler de d'autres occurrences de ce genre de malversation de passeport Canada. Tu sais, comme moi, je suis bien content d'avoir eu le mien. Est-ce que je suis le premier à l'avoir entre les mains ou est-ce que mon enveloppe s'est promenée un peu au Canada? Mystère. Mais j'ai pas, il y avait pas d'adresse barrée dessus, puis c'était pas décacheté puis collé avec du ruban adhésif ou comme on dit au Québec, du gaffe tape, ni des agrafes. Fait que je me dis, ben moi je suis safe. Mais ça aurait pu arriver à n'importe qui. Le porte-parole d'Emploi et de Développement social Canada, Saskia Rodenberg, a toutefois admis qu'en de rares occasions, parce que le Passeport Canada n'ont pas pu expliquer ce qui est arrivé. Il n'y a pas d'explication. Mais elle a dit, ben, ça peut arriver des fois, des erreurs humaines ou de systèmes. Je suis pas sûr que les systèmes puissent se tromper d'adresse. Moi, j'ai l'impression que c'est plus une erreur humaine. Il peut arriver que des documents soient livrés par inadvertance à une adresse incorrecte. Non, c'est pas supposé arriver! Pourquoi elle dit ça? Mais bon, elle a indiqué aussi qu'une enquête approfondie devrait être effectuée. Est-ce que ça sera fait? Ou est-ce qu'on va peut-être juste parler ou vérifier les gens qu'on a engagés en renfort à Passeport Canada pour pallier à cette espèce d'engorgement qu'on a connu dans la dernière année? Mais si vous faites une demande de passeport, ben... suivez-la. T'sais, si ça arrive pas à la date prévue, moi je vous dis, le titre de référence est arrivé à peu près une semaine avant la date prévue. Si ça arrive pas à la date prévue, hein, appelez donc. Moi je vous dis ça de même. Ah, il y a un autre dossier qui est... celui-là, tu me fait serrer un petit point un peu. Parce que... L'APF, qui est l'Assemblée des parlementaires de la francophonie. Savez-vous ce que c'est? Non, moi non plus, je savais pas. Parce que c'est pas quelque chose qui est très publicisé. C'est pas un organisme que l'on connaît bien. Pour vrai, je m'en vanterais pas si j'en faisais partie. Parce que ces gens-là sont des privilégiés. D'ailleurs, des élus pour la plupart, des députés fédéraux, provinciaux, puis aussi des gens nommés, c'est-à-dire des sénateurs. Allô, Lady Marianne. Allô, tout le monde. Quand c'est les systèmes informatiques qui rentrent les données, des fois, c'est la lecture de la machine qui est pas parfaite. Ah, c'est bon à savoir. Ben, écoute... historiquement, on n'est pas bien bon dans nos systèmes informatiques lorsqu'on les implante au gouvernement. Je vais juste laisser ça de même. Fait que, ouais, c'est très possible. Puis, je sais pas comment ils vont régler ça. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on va en entendre parler. Puis qu'il va y avoir d'autres cas qui vont sortir. Beaucoup de gens, je pense, qui vont avoir lu cet article-là. Ben, hey, Mouti, genre, c'est ça. Fait que, on va suivre ça. Puis, on va voir si l'enquête a lieu. Puis, on va voir si, effectivement, c'est système ou humaine. Si l'erreur est système ou humaine. Pour revenir à mon affaire de. Mon histoire de l'APF. L'APF, c'est une espèce d'organisation composée d'élus et de sénateurs qui... Attendez, je suis allé sur le site. Je vais y aller sur le site de l'APF. L'Assemblée parlementaire de la francophonie, section Canada. La section, ça, c'est ce qu'on dit en page frontispice de leur site Internet. La section canadienne de l'Assemblée parlementaire de la francophonie offre aux parlementaires canadiens des occasions d'échange en vacances avec leurs homologues de la francophonie. Vous aurez compris que j'ai ajouté le terme « en vacances » et vous allez comprendre pourquoi quand je vais vous donner des détails là-dessus. Faut savoir que... Il n'y a pas eu de rencontres pendant la pandémie, durant les 2-3 dernières années. De rencontres, c'est-à-dire en présentiel. T'sais, on a tout fait ça virtuellement à cause de la pandémie. Ça démontre une affaire. Ça démontre que la pandémie, c'était plate pour tout le monde, y compris les députés. Mais aussi que cette organisation-là, dont on connaît pas tant que ça le mandat, là, c'est pas super clair, je vais y revenir, là, mais... a réussi à survivre et fonctionner et tenir ses activités quand même pendant la pandémie sans se déplacer. Mais là, la pandémie est finie. Puis qu'est-ce qu'on fait après la pandémie? Maudit, on a le goût de voyager parce qu'on s'en est donc privé tout ce temps-là. Puis là, on a ramassé un peu d'argent, on a le goût de sortir, on se sentait prisonnier avec le confinement, avec les frontières fermées, avec les vols en avion. On veut se gâter en fin de pandémie et c'est ce que ces gens-là ont fait. Puis c'est pas démagogique de dire ça, là. C'est pas genre, ouais, mais il travaillait. Je... Vous me direz votre avis là-dessus. Tiens, dans les commentaires, j'ai déjà été à un événement à Saint-Clinclin des Meumeux, puis 150 personnes sur 155 se sont retrouvées dans un fondrant par rapport. Google, ok, ça c'est en lien avec avec les avec le dossier précédent. Bon, mais ces gens-là se sont rassemblés, c'est-à-dire l'Assemblée des parlementaires de la francophonie, Division Canada. Ben, ils se sont rassemblés à des places le fun, c'est ça qui arrive. Kigali, Bruxelles, Tahiti, Paris, Edmonton, Luxembourg et Tirana pour participer à des activités de cette organisation-là, tu sais, qu'on connaît pas beaucoup. On n'est pas sûr de ce qu'ils font, on n'est pas sûr s'ils travaillent vraiment, pis on n'est pas sûr s'ils font œuvre utile, parce qu'on sait rien d'eux autres. Parce que le gouvernement ne nous en parle pas, les médias non plus, mais aujourd'hui, c'est le fun, ça sort. Puis faut savoir que ils font des voyages comme ça à chaque année, mais dans les dernières années, ça coûtait entre 2000 et 5000 par personne en voyage comme ça. Mais là, juste depuis le début de l'année, là, on est rendu au mois 03, là, trois mois de fête, là. Ils sont rendus déjà à 5000 par personne. Durant la dernière semaine de janvier, pendant que les les travaux reprenaient à l'Assemblée nationale et au Parlement. On est en pleine crise d'inflation. Il y a un paquet de problèmes à régler. On manque de logements sociaux. Les hôpitaux sont sur le cul. L'éducation, c'est sur le cul. Ça va mal. Et ben, pendant ce temps-là, ben, il y a quatre élus et trois accompagnateurs qui se sont envolés pour Papeete. Je sais pas si je le prononce bien, mais c'est sur l'île de Tahiti. Puis d'ailleurs, dans le journal, on voit une superbe photo d'un atoll paradisiaque dans une baie magique à Tahiti, tu sais, qui émerge d'une mer turquoise avec des beaux petits chalets. Les petits parasols en paille, tu sais, paradisiaque, un voyage que vous pourriez pas vous payer. Ils sont allés là travailler super fort. Puis ils sont pas allés en autobus, puis ils sont pas allés en classe économique en avion. Non. Ces gens-là voyagent en classe affaires, en première classe. Puis tu sais, moi j'ai jamais utilisé la classe affaires. Moi c'est plus genre stand-by, s'il reste de la place, on t'embarque, pas trop de valises, garde ton sac à dos sur toi, mange un sac de peanuts, puis c'est ça le voyage. Eux autres, c'est en classe affaires, hein, c'est les pieds tendus dans des salons presque, là, tu sais, c'est puis ça coûte à peu près 5 fois le prix. Je dis ça à peu près parce que évidemment, je me suis jamais payé ça. Mais bon, ce voyage là uniquement là, aurait coûté 15 000 $ par personne. Pour que des gens aillent discuter et échanger sur la francophonie dans un paradis de Tahiti. Il y a un paquet d'autres voyages comme ça qui ont lieu, tu sais, puis là, pour faire valoir leur mission tellement importante, hein, pour notre société, puis tu sais, alors qu'on manque d'argent, puis on manque de fonds, je veux dire, on manque d'argent, mais on manque de ressources aussi, on manque de ressources humaines, tu sais, ne serait-ce que par solidarité pour les citoyens, les politiciens devraient peut-être garder une petite gêne avant de se payer des vacances somptueuses. Eux autres, ils appellent ça du travail, là, mais attends un peu, là. T'sais, c'est, quand on regarde là, leur horaire, là, puis d'ailleurs, je l'ai, leur horaire, mais tu sais, juste pour ce voyage-là, t'sais, à Tahiti, dans l'endroit paradisiaque que je vous ai décrit, ben écoute, ils débarquent de l'avion, en première classe, évidemment, puis là, ben, ils arrivent là pour discuter notamment des changements climatiques. Je sais pas c'est quoi le lien avec leur mission de promotion de la francophonie puis d'échange de la francophonie. Changement climatique. Ça, c'est bien connu aussi. C'est que quand tu utilises un prétexte qui est à la mode dans l'actualité, tout passe mieux. Fait que y aller pour les changements climatiques, ben ça met une espèce de petite aura de bienveillance. Ça donne une espèce de sentiment d'importance à ceux qui lisent « Oh, ils se préoccupent des changements climatiques en prenant l'avion ». en brûlant du gaz pour, tu sais, puis je veux juste rappeler que dans les dernières années, pendant la pandémie, ils ont tout fait ça virtuellement, là, en économisant du carburant, là, tu sais, d'avions qui contribuent au réchauffement climatique. Mais là, la pandémie est finie, fait qu'ils se sont dit, ah, on va aller jaser des changements climatiques en brûlant du gaz en première classe pour aller dans un paradis. Et l'horaire, tu sais, quand même, faut que je le dise, c'est assez chargé là. Quand ils arrivent là-bas, ils sont bookés, comme on dit là. Il y a des cocktails dînatoires, un dîner sur un îlot de sable corallien, une visite en bateau d'une réserve marine et la découverte aussi en bateau d'une mythique vague pour y observer des surfeurs. Ah, puis il y avait des rencontres de travail aussi, là, tu sais, mais t'étais pas obligé d'y aller, là. T'sais, l'important, c'était les cocktails dînatoires, les tours de bateau, puis... Ils sont allés en vacances! C'est ça la job de l'OPF, c'est de se payer des vacances sur le dos des contribuables avec une mission qui semble bidon, en tout cas, dont on ne voit pas... moi, en tout cas, je vois pas de bénéfice, OK? J'en vois pas, là. Tantôt, je vous parlais d'un député, là, Joël Godin, qui est député conservateur. C'est lui qui a reçu les lettres de passeport et qui est allé les porter à Passeport Canada. Pour moi, il en a profité pour renouveler le sien parce qu'il faisait partie du voyage. Ce sont tous des députés puis des gens qu'on a... élus, là, tu sais, puis qu'on paye avec notre argent pour travailler, pas aller dans des cocktails dînatoires, puis faire des tours de bateau pour regarder des surfeurs. Il est où le travail là-dedans? Évidemment, les deux paliers de gouvernement ont pas voulu dévoiler les sommes dépensées avant que le rapport soit déposé en chambre et qu'on ait accès par la force des choses et qu'on apprenne ça. Puis, tu sais, c'était le deuxième voyage à Tahiti en moins d'un an pour les députés québécois et canadiens ainsi que les sénateurs qui s'y sont présentés, qui ont fait ce petit voyage-là. D'ailleurs, l'ex-députée libérale Maryse Gaudreau, elle est allée pendant 5 jours en avril dernier avec une conseillère. Parce que, tu écoute, elle peut pas aller là tout seul, là. Un cocktail dînatoire, je prends-tu celui qui a une olive ou je prends celui qui a une cerise? Ça prend une conseillère. Et leur mission, que moi je mets entre guillemets, là, je peux pas appeler ça une mission, je suis désolé, là. C'est une mission aussi sérieuse que celle du capitaine Patnaud. Leur mission a coûté 30 600 $. 30 000 $ pour 2 personnes 5 jours. Hey, nous autres, on travaille à longueur d'année pour être capable de peut-être se payer un voyage de 3 000 $ dans un tout inclus, dans une piscine pleine de pisse pour boire des cocktails et coupés avec de l'eau. Puis, je parle même pas en connaissance de cause, juste les témoignages. Parce que moi, je peux pas me payer ça, OK? Mais eux autres, parce qu'ils sont élus et parce qu'ils font partie de cette organisation-là, ben, ils peuvent se payer des vacances de 30 000 $ avec des petits tours de bateau organisés, des cocktails dînatoires, puis des vacances de luxe, d'un luxe obscène pour des élus qui s'en vont là faire à peu près rien. C'est quasiment... quand j'ai nommé la liste des activités... En dernier, t'avais, ouais, il y a des rencontres de travail, là, tu sais, mais j'ai pas l'impression que ça travaille fort, hein, tu sais. Surtout pas en observant des surfeurs sur un bateau sur la mer turquoise de Tahiti. Fait que, tu sais, ça coûte cher en maudit. Puis, c'est surtout obscène. C'est vraiment obscène de voir ça. Surtout que cet organisme-là, très utile, j'en suis convaincu, a quand même pu fonctionner de façon virtuelle pendant les dernières années. Moi, je pense que là, on se gâte. On se dit, hey, là, on n'a pas coûté cher des dernières années. On a du budget. On va dépenser ça. De toute façon, si on dépense pas, peut-être qu'ils vont nous couper l'année d'après. Ils vont dire, ah, vous avez fonctionné quand même sans cet argent-là. Fait que, ben, écoute, on s'est payé, puis des vacances, puis on a amené des conseillers-conseillères avec nous autres. Sur le site de la section canadienne de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie Club de Vacances Inc., on a accès aux activités puis les rapports de cette organisation-là. Puis j'ai devant moi des activités qui ont été tenues pour cette gang de vacanciers-là, francophones, des vacances en français. Le 20 mars, il y avait un petit déjeuner offert par M. Francis Drouin, qui est un élu et qui est aussi le président de la section canadienne de l'Assemblée parlementaire de la Franco vacances, en l'honneur de Mme Nathalie Roy, députée. On a fait un petit déjeuner en son honneur, parce que, je sais pas, elle est députée, présidente de l'Assemblée nationale, elle est hot, fait qu'on s'est tous rejoints quand même pas si loin, Ottawa, puis on a procédé à ce petit déjeuner-là, qui était offert par le président lui-même. Il y a une conférence des présidences de section de la région Amérique de l'APF. Ah, ça, pour vrai, ça, faut être honnête, ça sonne comme du travail. Ça sonne comme du travail. Ah, vidéoconférence. Ah, pour le travail, ben, on se déplace pas nécessairement. Tu sais, c'est quand ça sonne important, quand ça sonne sérieux. On fait ça par vidéoconférence, en pantoufles, avec un petit cellulaire pas loin pour s'amuser pendant les bouts plates. C'est comme ça qu'on fait les bouts sérieux. Réunion de la commission des affaires parlementaires de l'APF. Oh, ça, c'est au Maroc. Fait qu'on y va. Ça a l'air le fun. On s'est payé ce petit voyage-là au Maroc. Ah, tiens. Polynésie française, à Papeete. On revient encore à cette ville-là de Tahiti. Puis, je sais pas si c'est une ville. Je pense que c'est plus un resort. Alors, on s'est déplacé. La section canadienne de l'Assemblée parlementaire de la francophonie s'est déplacée en première classe pour aller faire un petit tour là. Il y a eu un petit déjeuner aussi offert par son Excellence, Monsieur Michel Mireillet, qui est l'ambassadeur de la France au Canada, à Ottawa. On fait ça à Ottawa. Et là, ça devient plus le fun. Le 18e sommet de la francophonie. Bon, là, je peux comprendre qui leur présence là, c'est un sommet de la francophonie. Là. Mais quand même, ça fait un petit voyage en Tunisie, le fun pareil. T'sais. Oh, lancement d'un réseau francophone international en conseil scientifique de l'APF. Celui-là, ça sonne sérieux aussi. Montréal! réunion du comité exécutif. Hey, ça, une réunion, c'est dole. Hein. Ça avance pas, tout le monde a un point, puis après ça, ça débat, puis après ça, on passe jamais au prochain. Puis à un moment donné, on pense qu'on a fini le c'est plate. Une maudite réunion. On fait ça par vidéoconférence. mais pour le colloque de l'APF sur les démocraties contestées, apparemment, il y a un lien avec la francophonie. Moi, je le trouve pas. Vous me direz si vous avez une idée. Ça, on y va. Parce que c'est au Luxembourg. Puis moi, je suis jamais allé au Luxembourg. On y va. C'est ça, il n'y a pas de problème. Ça, on se déplace. Ça peut pas. Ça se faisait en virtuel pendant la pandémie. Mais là, on se déplace. On y va. C'est surtout en première classe. On se gênera pas d'aller à des places de même. Réunion du bureau et 47e session annuelle de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Kigali, au Rwanda. Ah, on va y aller aussi. C'est le fun. On aime ça faire de l'avion. Fait que finalement, tu sais, cette organisation, écoute, je sais même pas. C'est une gang d'élus qui s'en va en vacances, OK? Puis il y a plein de noms qu'on connaît. T'sais, deux de mes anciens députés sont là. Bernard Généreux, qui est Montmagny, Lillet, Kamouraska, ces coins-là. Et Sébastien Lemire, qui est en Abitibi-Témiscamingue, fait partie des chanceux qui se promènent là. Il y a aussi Yves-François Blanchette, Joël Godin, dont j'ai parlé. Il y en a plein, là. Je sais pas exactement. Je pense que c'est autour de 80 membres. Ou un peu plus qui font partie de ça, tous des députés fédéraux, provinciaux et puis des sénateurs. Si vous voulez voir ça, vous allez c'est sur le site du Parlement du Canada, mais en fait si vous allez juste googler section canadienne de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, vous allez y arriver et voir tous les membres. Mais faut chercher un peu. Si vous allez sur l'Assemblée parlementaire de la francophonie, le site international, vous verrez pas les membres canadiens. On voit le conseil exécutif, tu sais, administratif international. Mais quand on va sur le site de Parlement Canada, bon, on a accès à tous ces noms-là de nos élus qui se payent des vacances en première classe à Tahiti pour assister à des cruciaux cocktails dînatoires et promenades en bateau pour observer des surfeurs. C'est dur de pas être cynique en voyant des affaires de même. Puis, c'est ça, on se garde. Puis, l'année est à peine entamée qu'on est déjà rendu on est déjà rendu à l'année la plus chère ever. C'est ça, ils se sont ennuyés, ils ont le goût de sortir, puis c'est ça. Ils sont allés s'amuser et remplir leur mandat, évidemment, crucial d'échanger avec d'autres membres de la francophonie, changement climatique, international, ça veut rien dire. En tout cas, ça veut rien dire quand on lit. C'est bien difficile. Pis quand tu regardes leurs photos de vacances, elles sont toutes là avec leurs chemises hawaïennes. T'as pas l'air de travailler fort. Avec les petits colliers de fleurs dans le cou, là, j'ai pas l'impression que, un, c'est crucial, puis deux, que c'est vraiment essentiel qu'on aille se promener à l'international, puis qu'on se paye des vacances, puis qu'on y aille en avion en première classe, dans des hôtels pareils. T'sais, c'est même pas un hôtel genre style. S'ils nous montraient au moins un hôtel, t'sais, une bâtisse grise, là, un centre de conférence, puis... Non, c'est des petits chalets sur le bord d'un atoll. C'est honteux, c'est juste du luxe. Dans les commentaires, Kate Vézina dit « Bernard Généreux s'est juste trompé de chemin. Je me rappelle avoir discuté avec lui et il croyait que la Pocatière et Montmagny étaient dans le même CI3S. » C'est pas un expert en géographie. Je l'ai interviewé quand j'étais une station de radio. J'étais le journaliste de cette station de radio-là. Puis effectivement, c'est... je veux pas parler mal de lui, mais... Il m'avait pas l'air... plus allumé qu'il faut, je veux le dire comme ça. Blacknet dit quand c'est les autres pays qui viennent à Ottawa, c'est pas mal de même aussi pour. Ouais, mais nous autres, on n'est pas une destination paradisiaque, puis je suis pas sûr qu'on les met dans des petits chalets, mais sait-on jamais. La plupart des pays francophones sont soit en Europe, soit en Afrique, soit dans les îles, près de la ligne de l'Équateur en Amérique. Tu sais, quand ils viennent à Ottawa, c'est. Ouais, ok, je comprends là que, admettons, même si ça peut se faire en virtuel, qui se déplace tout ça, là. Mais Colin, vous irez voir la photo, là. C'est pas un endroit de travail, là. Puis regardez les activités, là. C'est pas des je suis sûr que dans certains événements, c'est des conférences, puis des formations, décider ça, là. À propos des changements climatiques, aussi ils veulent, même si je vois pas de lien avec la francophonie. Mais quand je regarde la liste des activités de Tahiti sur... dans les petits chalets de paradis, tu sais, une place d'influenceur. Imaginez un influenceur, là, mais un ministre avec sa bédaine, là, qui pose, là. Cocktail dînatoire, dîner sur un îlot de sable corallien, visite en bateau d'une réserve marine, découverte en bateau d'une mythique vague pour y observer des surfeurs. Là, c'est je m'excuse, là, c'est indéfendable. Indéfendable, je vois vraiment pas OK, là, je comprends pas le commentaire de Boston Pat. Là, en fait, c'est une question. C'est quoi la partie la plus cochonne de Frank qui est né en Beauce? Eh bien, Colin, je me demande c'est quoi la réponse. Mais quand on regarde ça, ça sonne pas comme du travail. Ça sonne pas sérieux. Ça sonne genre... C'est clairement des vacances payées à grands frais et où on se rend en première... Est-ce que, premièrement, ils ont besoin absolument d'être en première classe? Là, t'sais? Premièrement, là, t'sais, c'est indécent, c'est obscène. Puis j'aimerais ça qu'on m'explique plus clairement c'est quoi la mission là, de ces gens-là, puis qu'on me fasse valoir le caractère essentiel de leur fonction et surtout de leur petite leur petit cocktail dînatoire et de leur tour de bateau pour regarder des surfers sur une vague mythique. On va aller faire une petite pause et puis je vais essayer de faire du sens de ce commentaire-là, de cette question-là qui parle de la Beauce. Fait qu'on revient après ça, c'est l'Express du 20 mars.
Abonne-toi à notre Patreon et découvre des centaines d'heures de contenu. Tu auras aussi accès à la légendaire Chambre froide.
Rire et facepalm garantis.
J'essaie de comprendre le raisonnement de Boston Pat. Écoute, je comprends pas qu'est-ce que tu veux dire. Quelle partie... c'est quoi tu disais, là? Oh, ça, c'est bon. Communier avec l'océan comme body dans Point Break. C'est quoi la partie la plus cochonne de Frank qui est né en Beauce? Et plus tard, ton explication, c'est... après ton commentaire très drôle de Point Break. Frank, tu es né partout au hockey. Je te comprends pas, je suis désolé. ce que je retiens, c'est pas moi, mais dans les commentaires, j'essaie de remettre la main sur ce commentaire-là. C'est que on. Bon, tiens, Black Niet. Moi, ce que je retiens de ces photos, c'est que les gens qui y sont allés vont retenir une bonne image du pays dans lequel ils sont allés. OK. Mais c'est pas l'office du tourisme, pis ils sont pas là pour apprendre à être accueillants dans comme destination vacances. Là. C'est pas un stage de tout ça. Ils sont supposés être là pour la francophonie, puis ils vont voir du monde surfer sur des vagues. J'ai remarqué en surfant dans l'actualité. Sur différents sites, qu'il y a comme une hausse de violence à Montréal, puis après être tombé sur ces nouvelles-là, j'ai vu qu'il y avait des nouvelles mesures qui étaient prises à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal, et pour cause. Puis là, je suis revenu sur les nouvelles. Je fais pas de faits divers, vous aurez remarqué. Je fais, en tout cas, rarement des faits divers, là. Je fais rarement des histoires de meurtre, puis d'agression, puis des choses comme ça. C'est rare que je les traite parce que souvent, il n'y a pas d'autre opinion que de dire c'est révoltant, c'est épouvantable. Puis la violence, j'ai rien à vous apprendre là-dessus. Puis je pense pas être capable d'être très intéressant comme certains pour parler de ça. Mais là, en voyant cette nouvelle-là, de nouvelles mesures à Sacré-Cœur, puis c'est pas des mesures sanitaires, là. Je suis retourné voir ça, puis j'ai répertorié les leads de quelques nouvelles juste pour la journée de dimanche. Vers 3h45, dimanche matin, il y a eu des appels qui ont été faits au 911 pour des coups de feu qui ont été tirés dans la vitrine d'un restaurant sur la rue des Lauriers, près de l'intersection de Benjamin Hudon, dans l'arrondissement Saint-Laurent à Montréal. Des coups de feu. Dimanche matin, 4h moins quart du matin, la journée commence comme ça. Un peu plus tard, dans l'après-midi, dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies, il y a un jeune de 16 ans qui s'est fait un peu poignarder. Encore à Montréal, une altercation entre plusieurs individus qui auraient éclaté autour de 16 heures. Et ça a fini avec un adolescent poignardé. Un peu plus tard, j'avais un jeune homme de 18 ans qui avait été blessé par balle, une balle qui aurait été tirée à partir d'un véhicule. On craignait pour sa vie hier soir. Ce matin, il est décédé. Donc, une autre victime par arme à feu à Montréal. Encore dans la journée de dimanche. Là on est rendu à trois incidences. Puis, je pense que là... Puis si on recule dans les derniers jours, là, il y a eu la famille décimée par un gars en crise avec son poignard. Puis on n'a pas besoin de reculer beaucoup pour tomber sur d'autres nouvelles de ce genre-là. On a décidé pour se protéger, pour des raisons de sécurité, à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal, d'instaurer une nouvelle procédure. Et c'est pas une mesure sanitaire, c'est une mesure de sécurité. Parce qu'il faut dire que cet hôpital-là est spécialisé dans les traumatismes qui peuvent être causés par des blessures par balle ou par arme blanche. Ça arrive souvent. Puis ce qui arrive souvent aussi, c'est que ces patients-là qui arrivent avec une balle dans le corps en ont aussi à leur ceinture dans un gun. T'sais, ils arrivent là armés parce que crime, c'est du monde des gangs, puis il y a du crime. Si tu te fais tirer dessus, c'est rare qu'on te vise si t'es pas déjà quelqu'un de dangereux, si t'es pas dans un milieu. Si t'as pas gravi les échelons de la violence jusqu'aux armes à feu, c'est rare que tu vas te faire tirer dessus volontairement. Il peut y avoir des balles perdues, des choses comme ça, des agressions gratuites, mais c'est pas rare que les gens qui arrivent à cet hôpital-là sont armés eux-mêmes. Donc maintenant, il y a un agent de sécurité qui est obligé de fouiller les gens et les effets personnels de ceux qui se présentent à l'urgence. On regarde dans les sacs, on va palper les gens pour être sûr qu'ils n'ont pas d'armes. Parce qu'on est rendu là, à Montréal. Montréal, USA, tu sais, ça ressemble quasiment à ça, là. Puis c'est ça. Là, pour l'instant, si j'ai bien compris, ça se passe juste à cet hôpital-là. Parce qu'ils sont spécialisés en traumatologie. Et il joue un rôle crucial pour ce type de blessures-là, des gens blessés par balles. Et il y en a de plus en plus. Et les gens arrivent là, des fois, armés. Et puis, c'est ce qu'on dit d'ailleurs du côté de l'hôpital. C'est que lorsqu'on soigne une personne qui a été blessée par arme à feu, il y a des plus grandes chances que cette personne-là soit armée, lui et les personnes qui viennent le visiter. Membre de sa gang, il n'y a pas juste la famille qui vont voir. Donc, c'est ça qu'on rapporte du côté du CIUS du nord de l'île de Montréal. Donc, c'est ça. En octobre dernier, on a certaines données pour ça. Le service de sécurité de l'hôpital a saisi 2 armes à feu. Puis ils ont trouvé par hasard. Ça, c'est avant qu'il y ait des... avant qu'il y ait cette fouille-là à l'entrée. Là. Par hasard, dans les effets personnels d'un patient qui bon, on va se faire opérer. Ça, c'est mon linge sale. Puis, hey, brasse-les pas trop. J'ai un gun qui est craqué dedans. Ça a l'air que ça arrive. Eh bien, on a déterminé une liste d'objets non sécuritaires qui sont saisis à l'entrée de l'hôpital. On parle de canifs suisses, des couteaux rétractables. C'est pas censé exister, là. En tout cas, c'est pas légal, là. Des bouteilles d'alcool aussi, toutes sortes d'affaires. Des objets, n'importe quoi, de contondants, de coupants, de armes à feu, évidemment. Tout ce qui peut être dangereux, maintenant, on enlève ça. Entre le 12 décembre 2022 et le 22 janvier 2023, un total de 183 objets dangereux ont été découverts. Ça donne à peu près une moyenne de 5 objets dangereux par jour. Pas nécessairement des affaires illégales comme des armes à feu. Là, on inclut tous les objets dangereux. Ben moi, je trouve ça un peu désolant qu'on soit arrivé là à Montréal, qu'on soit rendu avec un hôpital presque américain où il faut vérifier, puis ça va prendre des détecteurs de métal dans les hôpitaux, surtout ceux qui sont spécialisés dans les traumatismes par armes à feu, les blessures par arme à feu, ben va falloir qu'on fasse ça. On est rendu à ce niveau-là où les employés des hôpitaux ne se sentent pas nécessairement en sécurité pour soigner des gens, sauver des vies. Mais en tout cas, où on a testé ces choses-là, je pense qu'il y a eu 2 hôpitaux où ça a été vraiment testé. Ben les employés sont favorables à ce qu'on maintienne ces mesures-là, parce que ben écoute, eux autres, ils veulent se sentir en sécurité, c'est aussi simple que ça. Une autre nouvelle que j'ai mis de côté, je regarde les commentaires, points américains, Colin, je pense pas que ce soit légal des points américains. Boston Pat, je sais pas si on en trouve, mais si on en trouve, j'imagine que ça aurait été inclus dans les armes illégales avec les armes à feu. Tantôt, dans les 180 quelques objets dangereux, ça comprenait pas d'armes illégales. Il y a un nouveau sondage qui a été mené par Research Co. qui démontre ça m'a choqué un peu comme résultat, qu'une majorité de Canadiens serait en faveur de la peine de mort. Là, je me rends compte que j'ai préparé beaucoup trop de sujets, mais celui-là, je veux vous en parler. 54% des répondants au Canada se disent prêts à revoir le système de justice pour pouvoir réadmettre la peine capitale parmi les options pour que les juges puissent condamner des gens à mort au Canada. Fait que c'est un petit peu décourageant. En tout cas, de mon point de vue, tu sais, je sais pas qu'est-ce que vous pensez de ça, la peine de mort, vous pouvez me le dire dans les commentaires, je vais essayer de tous les attraper. Ça fait dur pas mal. Faut dire qu'au Québec, on est un petit peu plus évolué apparemment là-dessus. Combien je disais pour le Canada, 54%, c'est ça, 54%. Au Québec, ça descend à 43% de gens qui seraient en faveur de la peine de mort, mais en Alberta, USA, 62%. En Saskatchewan, 60%. Manitoba, 58%. Puis en Ontario, en Colombie-Britannique, c'est 55%. Autour de ces pourcentages-là. Je sais pas si je me trompe. Je pense que ça ressemble pas mal à ça. Là. Dans le Canada, Atlantique, 55%. Donc au Québec, on est les moins enclins à rétablir la peine de mort, ce qui, moi, me rassure un peu, même si ça me surprend beaucoup. Mais en même temps, tu sais, avec la montée de la droite, c'est pas si surprenant que ça, parce que d'habitude, la droite est en faveur de la peine de mort. C'est toujours des conservateurs qui ramènent ce débat-là, qui essaient de ramener ça, puis c'est... Dans la plupart des arguments, ça revient toujours au même, en fait. Là, avant d'aller là, ce que je trouve, premièrement, ce que je trouve contradictoire chez les gens qui sont en faveur de la peine de mort, qui sont souvent des gens de la droite, sont souvent les mêmes gens les mêmes personnes qu'on va voir dans les manifestations supposément pro-vie, où on devrait pas faire de suicide assisté et d'interruption de grossesse. Parce que seul Dieu, le vengeur, a droit de vie ou de mort sur les humains. Oh, mais la peine de mort, par exemple, wow, ça, c'est sexy, ça, ça nous tente un petit peu plus. Souvent, c'est ça qui est drôle, hein, c'est l'avenir, le droit, la vie, c'est sacré, seul Dieu décide. Ah, mais pour zigouiller du monde, puis les condamner à mort, puis... Ah, oh, ça, par exemple, on est un petit peu plus chaud pour ça. Moi, je pensais qu'on était bien au-delà de ça. Écoute, c'est... depuis 1976 que la peine de mort est abolie. Et puis, je pense que c'est beaucoup d'ignorance et d'émotion qui est au cœur de ce débat-là. Je pense que les gens, la plupart des gens en faveur de la peine de mort ont peut-être pas pris le temps de se renseigner sur ce que c'est, ce que ça implique, est-ce que ça fonctionne, est-ce qu'il y a des bénéfices pour la société. Et ils sont plus dans l'émotion, dans la vengeance. « Oh, les astis de pédos, on devrait les tuer. » D'ailleurs, si la peine de mort devait revenir, sûrement qu'elle ne toucherait même pas les agresseurs sexuels puis les pédophiles qu'on haït tous tant. Là. D'habitude, la peine de mort, cette sentence-là est plus rattachée au meurtre. C'est la loi du talion. Là. T'as tué, tu meurs. T'sais, c'est pas mal ça, puis c'est basé sur de la vengeance. Je suis allé sur le site d'Amnesty International pour étayer mes arguments, en fait pour emprunter leurs arguments, parce que même si moi j'en ai, je pense qu'eux autres, ils sont bien placés pour argumenter là-dessus, parce que ils s'intéressent à ça de très près, et je pense que c'est évidemment leur domaine de recherche, de prédilection, ils connaissent ça. Donc... Ils posent quelques questions et fournissent des réponses. Les victimes de crimes violents et leurs familles n'ont-elles pas droit à la justice? Ça, c'est un argument qu'on va mettre de l'avant souvent chez les tenants du rétablissement de la peine de mort. Ben là, je résume, là, je vais pas lire le site, là, mais on apprend que de nombreuses familles dont des membres ont été tués par des criminels... ne se sont pas trouvés soulagés en voyant que le... Puis là, c'est évidemment beaucoup aux États-Unis et à l'étranger, parce qu'ici, comme je vous disais, depuis les années 70, il n'y a plus de peine de mort. Mais on apprend que ces familles-là ne sont pas soulagées dans leur souffrance de voir que l'agresseur, le meurtrier d'un de leurs membres, d'un membre de leur famille, s'est fait exécuter. Ce qu'on constate, c'est que la souffrance qu'ils vivent se transfère et plutôt s'étend à la famille du condamné, autant qu'à celle de la victime. Parce que la famille des... Parce que tuer une personne, OK, ça punit cette personne-là, mais ça fait souffrir toute sa famille qui, eux, ne sont pas coupables d'un meurtre. Tu sais qu'eux autres ne méritent pas de punition. Déjà, de le savoir en prison, ça peut faire mal un peu. Mais là, en plus de rajouter le deuil, tu sais, imagine... Imaginez la mère innocente d'une personne qui a commis un meurtre et qui se fait exécuter. Je trouve que c'est des souffrances non nécessaires. Puis apparemment, ben ça soulage pas les survivants de l'agression, puis les membres de la famille de la personne qui ont été tués. Fait qu'il y a pas de bénéfice là, tu sais. La sentence de mort. Tu sais, ça s'étend au-delà de juste mourir. C'est que ça inflige une cruauté que physique d'abord, parce que tu te fais tuer, hein, c'est quand même ça. Et psychologique aussi, parce que des fois, c'est long avant que tu aies la peine de mort. Fait que tu peux être longtemps dans le couloir de la mort puis vivre des mois et des mois en sachant que tu vas mourir. Ça ressemble à de la torture, puis on c'est pas le système progressif qu'on s'est donné, en tout cas au Canada et dans la plupart des pays civilisés. Le but, c'est pas de faire souffrir, le but, c'est de protéger la société. Puis je comprends qu'on peut pas réhabiliter tout le monde, puis qu'il y a des gens qui méritent probablement jamais d'être réhabilités, ni même qu'on essaie. Mais déjà, des mettre en prison, ça protège la société de ces gens-là, les prison à vie, par exemple. Et ces gens-là, ils sont punis, là. Leur vie est scrap, là. T'as pas de vie en prison, là. Je veux dire, c'est pas la vraie vie. Le reste de ta vie va être complètement gâché et tu vas vivre un peu comme un animal en cage. Moi, je trouve que ça me suffit comme punition. Ça satisfait, en tout cas, mon désir de vengeance, mais apparemment, en fait, je suis pas dans les pieds de quelqu'un, tu sais, peut-être que si ma sœur avait été assassinée, je changerais d'idée, mais ça serait parce que j'aurais un biais évident, parce que je serais impacté émotionnellement. En n'étant pas victime, ben je regarde ça un peu froidement, puis vous m'en excuserez, ceux qui sont des proches de victimes, je suis obligé de regarder ça comme ça. Je n'ai pas le vécu d'avoir vécu un traumatisme de la sorte. Mais ça me permet en tout cas de pas réfléchir en étant biaisé par des émotions. J'essaie de regarder les faits. Un autre argument qui est très, 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 très populaire, très, très courant, c'est l'argument de la dissuasion. On pense, puis c'est beaucoup la logique, je pense que c'est la logique qui motive la peine de mort dans les pays et les États américains qui l'appliquent. C'est qu'on a l'impression, on est convaincu en fait que si on maintient ou on instaure la peine de mort pour les gens qui sont coupables de meurtre, ça va avoir un effet dissuasif et que les meurtres vont arrêter ou que les gens vont y penser à deux fois avant de tuer quelqu'un parce qu'ils vont avoir peur d'être exécutés. Mais quand on regarde dans les pays qui ont interdit la peine de mort dans leur histoire récente, les chiffres relatifs à la criminalité n'ont pas changé beaucoup. Même que dans certains cas, c'est l'effet contraire qu'on a vu. Puis en fait, l'effet, on a observé qu'il y avait plus de meurtres. Par exemple, au Canada, le nombre d'homicides en 2008 est inférieur à celui de 76 quand la peine de mort a été... Attendez. Au Canada, le nombre, je lis-tu comme faux, le nombre d'homicides en 2008 était inférieur de moitié à celui de 76 quand la peine de mort était abolie. Fait qu'il y a eu moins de meurtres alors qu'il n'y a plus de peine de mort que quand il y en avait. Puis dans les États américains où on a arrêté de faire la peine de mort, il n'y a pas eu plus de meurtres. La peine de mort n'a aucun effet dissuasif. Quand t'es rendu à vouloir tuer quelqu'un, tu t'en sacres des conséquences. Premièrement, parce que des fois, tu es dans un état émotif où tu ne réfléchis pas à ces choses-là. Et deuxièmement, dans beaucoup de cas, c'est parce que tu penses que tu te feras pas pogner. Probablement, dans tous les cas, à part ceux où tu perds la carte et tu agis sous une impulsion, les meurtres prémédités, tu penses tout le temps que tu te feras pas prendre. Sinon, tu le ferais pas. Fait que ça n'a pas d'effet dissuasif. Oubliez ça. Ça n'a pas d'effet dissuasif. Apôtre 420, c'est un cirque pour amuser les gens et dissuader les autres alors que certains tueurs sont probablement suicidaires. Pour dissuader, je pense que je viens de mettre le clou dans le cercueil, mais oui, je pense que un cirque pour amuser, peut-être pas pour amuser, mais pour donner l'impression au public qu'on règle un problème. Puis qu'on prend la criminalité au sérieux au point de tuer des gens. Mais quand on les met en prison pour la vie, on le prend au sérieux aussi. Je pense que c'est beaucoup plus une question d'apparence pour le public. Fait que oui, ta façon imagée de cirque pour amuser le public, je le dirais pas de même. Mais je pense que c'est pour l'exemple, puis c'est pour impressionner le public, mais ça n'a pas d'effet dissuasif. Puis sur Amnesty International, on parle aussi des terroristes. On dit, oui, mais la peine capitale pour au moins les terroristes, ceux qui tuent un paquet de monde. Un terroriste, d'habitude, par définition, là, surtout les kamikazes, là, c'est des gens qui sont prêts à mourir pour leur cause. Ils sont prêts à mourir. Est-ce que la peine de mort va les dissuader? Non! Ils sont prêts à se faire exploser, se tuer en accomplissant leur mission sacrée. Est-ce que ouais, mais là, si tu fais ça, on va te tuer, je vais être mort! Puis s'ils survivent, ils étaient déjà prêts à mourir pour la plupart des terroristes. Fait que est-ce qu'on leur fait peur? Ah, t'es prêt à mourir? Si t'es prêt à mourir, on va te tuer. Ça marche pas. Ça marche pas, puis en fait, ça a un effet inverse, c'est que. Ces gens-là qui se battent pour des causes vitales, des causes religieuses, des causes plus grandes que l'humain, lorsqu'ils se font exécuter par un gouvernement, par une autorité quelconque, ils deviennent des martyrs, sont encore plus des héros de la cause, puis ils craignent encore plus de monde à vouloir faire comme eux, un, pour donner leur vie pour leur cause, et aussi devenir des martyrs, des vedettes, pour que leur descendance, leur famille soient fiers d'eux autres, et leur organisation religieuse ou politique soient fiers d'eux. Ils deviennent des, ils entrent dans la légende. Fait que c'est ça a pas d'effet dissuasif, puis même que ça peut l'empirer, ça ne marche pas. Puis pour ce qui est de la façon comme telle de d'appliquer la peine de mort, ben la façon à la mode, c'est l'injection létale. Parce que c'est plus humain, c'est moins gore, c'est moins même grotesque que, je sais pas, une décapitation, une pendaison, une électrocution, un gazage, tu sais, ça a l'air moins barbare. Mais c'est barbare pareil, ça reste tuer quelqu'un. Tu sais, quand même que je me mets un beau gant blanc super propre pour te varger dessus à coup de hache, je te varge dessus à coup de hache pareil, là. Il n'y a pas de façon humaine, selon Amnesty International, et je souscris à ça, d'ôter la vie. Il n'y a pas de façon humaine. Premièrement, c'est pas parce que c'est... Mais en fait, tu sais, une décapitation, là, ça doit pas faire mal, là, sur le coup, je dis, mort. Ça doit être assez rapide, là. Sauf qu'évidemment, c'est grotesque à regarder. C'est dégueulasse, c'est gore. Ça a l'air encore plus barbare. Mais là, on se sent civilisé quand on injecte des injections mortelles. Mais la personne qui va se faire tuer pendant qu'elle est dans le lit puis qu'elle attend, là, de se faire injecter ça, qu'est-ce qu'elle vit, vous pensez? Quand même, ouais, cartellement, oui, Ratounex, c'est vrai, Braveheart. Cette personne-là vit une torture épouvantable de... Tu sais, être conscient que tu vas mourir, c'est pas le fun. Moi, j'ai déjà été dans une situation où j'étais entre la vie et la mort. Je savais pas si j'allais m'en sortir, puis... quand j'étais aux soins intensifs, puis je sentais que cœur commençait, on dirait que je crève, là. C'est vraiment, tu sais, c'est paniquant, là. Eux autres, c'est confirmé, ils vont mourir, là. Puis ils vivent ça, là. Je comprends que c'est, tu sais, on peut ne pas avoir autant de compassion pour un triple meurtrier. Tu te dis, ben là, qu'ils vivent, c'est tout, là. Mais comme société, on a choisi que la torture, c'était pas un moyen qu'on utilisait. Puis ça, ben, pour moi, c'est de la torture mentale. Et ça ne règle aucun problème. Ça protège pas plus la société que de le mettre en dedans. Ça coûte sûrement moins cher, on peut dire ça. Mais ça protège pas plus la société, puis ça a pas d'effet dissuasif. Pour moi, sauver de l'argent parce que ça coûte cher des détenus, ça me suffit pas comme raison. Surtout que l'argent, ben, on en a assez pour envoyer nos députés en vacances à Tahiti une couple de fois par année. Ben, on peut peut-être assumer nos opinions morales de la société qu'on s'est donnée. Et puis, mettre un peu de budget pour emprisonner le monde, pour protéger la société, plutôt que de faire une espèce de show pour tuer le monde. Quand je dis un show, je parle pas d'un show à TV, mais de décider de faire ça pour impressionner la population, je vais dire comme ça. Fait que, tu sais, je pense que la plupart des gens qui sont en faveur de la peine de mort, malheureusement, manquent d'informations. Là, je vois le temps qui avance, puis Colin, j'ai un paquet d'affaires à vous dire. Avant de me rendre à la bonne nouvelle, j'ai essayé de continuer la tradition de Martin d'avoir une bonne nouvelle. Je sais pas si je vais réussir tout le temps ou si je vais réussir à la livrer comme lui le ferait, mais je vais l'essayer. Mais avant ça, je veux vous donner une nouvelle troublante et la voici. Je suis d'accord avec Pierre Poilievre. Tu te l'es pas à personne, là. Mais non, pour vrai, ben en fait, je pense qu'en prenant la position qu'il a pris, c'est pas une position qu'il a inventée, là. C'est pas le premier à dire ça. Mais au moins, il le dit, Colin. Il dénonce le fait que beaucoup de médecins qui arrivent ici ne peuvent pas pratiquer leur métier alors qu'on a un manque criant de médecins parce que, ben, ils ont appris leur métier, leur profession plutôt, dans une autre partie du monde. Puis non, je fais pas de fièvre, ça va. Attends de voir où je m'en vais, tu vas peut-être être tu vas peut-être être d'accord aussi avec Pierre Poilievre. Apparemment, le corps humain au Canada n'est pas le même qu'ailleurs. Puis un médecin étranger, ben, on lui fait pas confiance pour pratiquer. On veut pas lui donner de licence d'exercice de la médecine parce que, ben, c'est un étrange. C'est sûr que je vulgarise beaucoup, j'imagine, les motivations de l'Ordre des médecins de Santé Canada. Mais crime, on en manque de médecins. On en manque! Ça se peut-tu qu'un médecin qui n'a pas exactement la même formation que les nôtres, ça soit mieux que pas de médecin puis du monde qui crève dans les corridors? Là, je veux pas remettre la qualité de nos médecins en question. Là. Même si tiens, Martin m'a envoyé ça, cette nouvelle-là, tantôt. Je vais juste faire bifurquer rapidement vers ça. Il y a une fille qui a été doublement diagnostiquée avec des faux diagnostics, des erreurs, des mauvais diagnostics. Elle est allée, ses parents l'ont amenée à l'hôpital. Attendez que je le trouve. Barry Memorial à Ormstown pour faire examiner leur fille qui avait des douleurs à l'oreille. Elle avait du sang dans l'oreille. Le médecin a déterminé qu'elle avait une otite, puis il a prescrit des petites gouttes pour les oreilles puis les antibiotiques. Sauf que l'état de la petite fille s'est détérioré. Pourquoi? Ben, c'est pas une otite qu'elle avait. Puis ils l'ont su en allant voir un autre médecin à l'hôpital Sainte-Justine à Montréal. Parlant d'endroit où je suis né tantôt, c'est l'endroit où je suis vraiment né. Ben là, il y a un médecin qui, lui, ben disons, elle a pas une otite. Arrêtez les médicaments pour l'otite. Elle fait une gastro. Fait que, écoute, Pédialyte pour qu'elle s'hydrate. Et puis, parce que, même si, bon, c'est ça, elle avait des symptômes, tu sais, qui ressemblent un peu à la gastro, là. Elle était pas capable d'intégrer rien dans son corps, ni nourriture, ni breuvage. Fait qu'elle se déshydratait. Fait que bon, on a conclu à une gastro. Donc, arrêtez l'otite, c'est pas ça. Ça, c'est une gastro. Finalement, mardi dernier, alors que la mère se préparait à quitter le travail pour que et que l'enfant restait à la maison sous la garde du père, ben écoute, un petit bisou bye, puis elle est allée travailler, puis elle a mis puis le père a mis un petit coussin entre les jambes de la fille parce qu'elle avait des douleurs aux jambes, ce qui est pas vraiment typique d'une gastro. Mais quand elle avait donné ce symptôme-là, qu'elle avait expliqué ce symptôme-là au médecin, il dit bah, ça m'inquiète pas. Ouais, elle a des troubles de vision aussi. M'inquiète pas non plus. Gastro. Est-ce que les médecins sont rendus tellement occupés qu'il faut qu'ils soient expéditifs au point de rejeter des symptômes et de conclure à cette vitesse-là? Je le sais pas. Mais ça ressemble un petit peu à ça. Mais une minute après que la mère ait quitté, ben, elle a arrêté de respirer. Son père a essayé de la réanimer avec les, jusqu'à ce que les paramédics arrivent, mais elle est décédée. Elle est morte après avoir eu deux mauvais diagnostics. Et pendant ce temps, on a des médecins qualifiés qui ont mais qualifiés avec des corps d'êtres humains, tu sais, qui sont pas nécessairement blancs francophones. Ben eux autres, ils chauffent des taxis puis ils se partent des dépanneurs. Pourquoi? Parce qu'on ne reconnaît pas leur formation. Ben Pierre Poilievre suggère qu'on mette au point un examen plutôt que les démarches pour qu'un médecin soit reconnu ici, un vrai médecin qui exerçait ailleurs soit reconnu ici, c'est épouvantable. La plupart se découragent puis décident de faire carrière ailleurs parce que c'est trop compliqué puis ils n'arrivent pas à pratiquer la médecine. Ben lui, Poilievre, lui, il parle d'instaurer un examen qui juste pour mesurer leurs compétences. En fait, c'est tout ce qu'on a besoin, mesurer leurs compétences. Est-ce que c'est un vrai médecin? Est-ce qu'il est à niveau? Ben oui, on n'a pas besoin de faire suivre un paquet de formations, puis mettez-les d'une urgence, puis ça presse, là. Donc, on veut accélérer ça en mettant, du côté de Poilievre, en mettant sur pied un examen qui testerait les compétences pour pallier cette situation-là qui est un non-sens. Là. 41% des médecins diplômés à l'étranger travaillent comme médecins au Québec. Il y en a juste 41%. Ça veut dire que tous les autres font autre chose parce qu'on veut pas les reconnaître. 37% des infirmières diplômées à l'étranger travaillent comme infirmières ici. Toutes les autres ne peuvent pas exercer ce métier-là parce qu'on les reconnaît pas, parce qu'on a décidé que nous autres, on est meilleurs, nos formations sont meilleures, puis le corps humain est pas pareil, puis je sais, tu sais, c'est ridicule. 34 105 infirmières et 18 900 médecins formés à l'étranger qui sont ici, là, peuvent pas pratiquer. Il me semble que on pourrait-tu bénéficier de ça, 18 900 médecins de plus? Est-ce qu'on peut se permettre de lever le nez sur 18 900 médecins dans l'état où le système est? C'est tellement lourd, les démarches pour se faire reconnaître qu'ils se découragent. Fait que, ben écoute, c'est mettez une petite note sur le calendrier. Pour une fois, je suis d'accord avec Poilievre. Écoute, il a beau être ce qu'il est, il a raison, puis crime, j'étais assez d'honnêteté intellectuelle pour l'admettre. Fait que je suis derrière lui pour ça. Vas-tu voter pour lui? Je vous le dis pas, je vous laisse deviner, je pense pas. Bon, Colin, on dépasse le temps, je vais juste y aller avec la bonne nouvelle. Il y a un robot qui s'appelle Garmi. Pourquoi je le prononce comme ça avec une voix de Rammstein? C'est parce que c'est en Allemagne, puis à toute fois que je vois des noms allemands, j'écoute de les prononcer comme Till Lindemann de Rammstein, mais c'est vraiment cool, c'est un robot médecin, entre guillemets. Ben écoute, c'est un robot traditionnel, là, avec des bras artificiels, puis il y a un écran noir à la place de la face, puis des espèces de ronds bleus à la place des yeux. Mais ce qui est intéressant de ce robot médecin-là, qui n'est pas vraiment médecin, il est téléguidé, puis il peut faire des... il peut permettre de faire des diagnostics et même de soigner. Et ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'il est... on n'est pas encore rendu à Star Wars avec les médecins qui te soignent puis qui te mettent dans une solution magique là, de Bacta qui te guérit, mais au moins, s'il n'y a pas de médecin là sur place pour s'occuper d'un patient, comme par exemple dans une personne, un centre de personnes âgées. D'ailleurs, cette expérience-là a eu lieu dans une région... où il y a un très grand nombre de personnes âgées en Allemagne, où justement il y a un taux de vieillissement qui est parmi les plus élevés au monde. Et ben ce robot-là permet à un médecin d'être là virtuellement et de même, tu sais, placer le stéthoscope où le médecin voudrait le mettre, puis de faire des examens et de transmettre les résultats au médecin qui, lui, peut après ça de faire un diagnostic, établir un traitement. Puis il y a plein d'autres choses que ce robot-là peut accomplir aussi. Il y a des petites tâches pour aider les gens âgés. Par exemple, ouvrir des bouteilles, servir des repas, appeler des secours s'il y a une chute ou ben un accident quelconque. Et organiser des conversations en vidéoconférence avec la famille. Tu sais, il y a un paquet d'affaires super intéressant. Puis c'est ça, il peut faire des examens médicaux, genre stéthoscope, j'imagine qu'il doit être équipé d'un saturomètre, mesurer l'oxygène, et ces données-là sont retransmises à un médecin qui, lui, après ça, peut établir un diagnostic. Fait que c'est toute une belle nouvelle, puis j'ai réussi à finir avec une bonne nouvelle, puis malheureusement, bon, j'ai défoncé le temps, mais il y a personne pour me dire de fermer ma gueule, parce que Martin n'est pas là, fait que peut-être qu'il me parle en message, j'ai pas eu le temps de le lire. Mais c'est ce qui va conclure cet Express. On se reparle demain à midi. Merci d'avoir été là. Bye.
Membre de la famille H2O Media.